Les services de sécurité annoncent le début de la fin d'Al-Qaïda dans le pays. Ils se fondent pour cela sur des documents retrouvés après le bombardement qui a coûté la vie à Abu Musab al-Zarqawi. Pour les amateurs de football, la fête continue. Il y a 3 matchs au programme du Mondial aujourd'hui encore. Le premier débute dans 1 heure, donc à 15h. Il s'agit d'Équateur-Costa Rica. Ensuite, à 18h, Angleterre contre Trinidad et Tobago. Enfin, à 21h, la Suède jouera contre le Paraguay. Tiercé, carte et quinte plus à Longchamp. Tout à l'heure, pour gagner, il fallait jouer l'As, le 14, le 9, le 11 et le 6. As, 14, 9, 11 et 6. Dans un instant, la bourse.
La bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia.
Cette fois, Cédric Decoeur, la tendance est bien à la hausse.
Oui, en fait, soutenue par une chasse aux bonnes affaires logiquement consécutive au repli des jours précédents, eh bien, le marché parisien regagne du terrain depuis l'ouverture. Le CAC 40 se heurte malgré tout toujours au plafond des 4700 points. Actuellement, l'indice progresse d'un 47% à 4683 points dans un volume d'affaires de 3,5 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, on retrouve cette même orientation haussière. Francfort s'adjuge 1,51%, Londres plus 1,37%. Et l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro, gagne 1,25%. Enfin, sur le marché des changes, la parité entre le billet vert et la monnaie unique reste relativement stable. L'euro se négocie actuellement contre $1,2616 en petite hausse de 0,4% face à la devise américaine. Voilà clair, je vous rappelle le CAC 40 qui lui gagne 46% à 4682 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric, vous écoutez France Inter, il est presque 14h04. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, l'affaire Dreyfus, 100 ans après. Aujourd'hui, première partie, la dégradation.
Par un jugement du 22 décembre 1894, le Conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.
D'histoire. En septembre 1894, dans la corbeille à papier de l'attaché militaire d'Allemagne à Paris, une femme de ménage qui travaillait pour les services de renseignement français découvrait une lettre annonçant la livraison de documents ultra secrets concernant l'armée française. Quelques jours plus tard, cette lettre, qui entrera dans l'histoire sous le nom de Bordereau, sera attribué au capitaine d'artillerie Alfred Dreyfus. Mais personne n'imaginait encore que cette banale histoire d'espionnage allait devenir une des plus grandes affaires judiciaires de l'histoire, si célèbre que 100 ans après qu'elle se soit terminée le 12 juillet 1906, elle continue de passionner les Français. Mais si on ne conteste plus aujourd'hui l'innocence de Dreyfus, on a oublié qu'à l'époque où il fut condamné pour trahison, dégradé et déporté à l'île du Diable au large de la Guyane en 1894, il n'y avait alors personne pour le défendre. Pour une opinion publique, travaillée par l'antisémitisme, ce juif était un coupable idéal. Et il faudra plus de 10 ans pour qu'on rétablisse la vérité, la justice et l'honneur d'un capitaine, victime d'une machination qui a discrédité pour longtemps l'institution militaire à laquelle il appartenait. Écoutez-le dans cette archive exceptionnelle, la voix d'Alfred Dreyfus, enregistrée en 1912, 6 ans après sa réhabilitation.
Au début de l'affaire, je salutais pour la plupart de ceux qui prirent part que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insoupçonnée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière fût faite complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Les découvertes se firent successivement, apportant chaque jour un élément nouveau, obligeant les esprits à réfléchir et à changer graduellement d'idées sur une foule de questions dont on ne se serait pas soucié autrement. L'éducation progressive ceci, les traditions s'évanouirent, nous préparèrent peu à peu, mais sûrement, l'esprit public acceptait des réformes importantes.
Et c'était la voix de celui qui, il y a 100 ans et pendant 12 ans, a été au centre d'une des affaires judiciaires les plus célèbres de l'histoire, Alfred Dreyfus, dont on célèbre en ce moment le 100e anniversaire de la réhabilitation et sur lequel on a publié de nombreux livres, dont ceux de mes invités. Jean-Denis Bredin, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient de rééditer chez Fayard un livre passionnant pour lequel vous étiez déjà venu dans cette émission. C'était l'affaire, vous appelez ça l'affaire, tout simplement, comme si ça allait de soi que c'était l'affaire Dreyfus, bien sûr. Et puis Vincent Duclair, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier, vous, chez Fayard, une biographie très complète de Dreyfus et deux autres livres d'ailleurs qui lui sont consacrés. Est-ce que vous aviez déjà entendu sa voix et est-ce que sa voix, cette voix, parce que c'est rare ce document, je crois que c'est la seule voix de Dreyfus dont on dispose, nous indique quelque chose sur Dreyfus?
Oui, je crois que cette voix indique deux points essentiels. D'abord la voix elle-même, hein, on a entendu une voix assurée, ferme, et c'est à mille lieues des légendes qu'on a pu répandre sur une voix monotone, inaudible. C'est les gens qui visaient à discréditer en fait l'accusé, l'innocent. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'il dit. Et là, c'est tout à fait impressionnant. C'est-à-dire que il analyse l'événement en termes, je veux dire, de combat des droits de l'homme, des droits du citoyen.
Oui, et pas face à une affaire personnelle.
Absolument, absolument. Il s'élève et de ce point de vue-là, on le voit là très clairement. Il est au centre de son affaire.
Jean-Denis Bredin. Sur cette voie, sur ce que dit Dreyfus, parce qu'on a souvent dit qu'il était resté un peu en deçà de son affaire, qu'il n'était pas à la hauteur même.
Un certain nombre de gens l'ont soutenu, je veux dire, parce que c'est vrai que c'était un homme qui était profondément réservé, profondément discret, qui ne devait pas aimer la parole, ni la parole en public. Ce n'était pas un homme, j'allais dire, de notre temps, tout à fait, en cela. Mais c'est vrai que sa voix révèle... comme le disait Vincent Duclair, à la fois sa fermeté, sa grande fermeté, car ce fut un homme d'un immense courage, et en même temps, c'est vrai, l'ouverture d'esprit qui peu à peu a accompagné son affaire et le fait qu'il a compris et voulu que son combat fût un combat qui le dépassa, pas seulement pour Dreyfus.
Et un homme entraîné, malgré lui, bien sûr, dans une affaire qui a passionné les Français et qui les passionne encore depuis plus de 100 ans, et qui commençait en septembre 1894 par la découverte d'un document, ce qu'on appelait le bordereau, découvert à l'ambassade d'Allemagne par une femme de ménage qui travaillait pour les services secrets français.
Il y a un espion parmi nous. Ce bordereau le prouve formellement. Écoutez ça.
Je vous adresse quelques renseignements intéressants. 1. Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. 2. Une note sur les troupes de couverture.
3. Une note relative à Madagascar. 4. Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. 14 mars 1894. Un traître parmi nous.
Et le plus grave, c'est que l'auteur de cette note est forcément quelqu'un du ministère. Sans doute un artilleur. Il faut chercher parmi les stagiaires, les officiers de l'état-major récemment brevetés. Ce sont les seuls qui passent dans tous les bureaux.
Le colonel Fabre connaît personnellement tous les stagiaires. Il y en a un qui l'a mal noté à la fin de l'année dernière.
Quel est le nom de ce capitaine?
Alfred Dreyfus.
Dreyfus, un juif.
Vincent Duclair, c'était l'extrait d'un très beau film de Yves Boisset, je crois auquel vous avez collaboré, Jean-Denis Bredin. Mais ça, cet événement, la découverte de ce bordereau, c'est le point de départ de l'affaire, ce document, et qui n'est pas signé. Comment se fait-il que très vite, en quelques jours à peine, l'état-major, les soupçons se soient portés sur Alfred Dreyfus, Vincent Duclair?
Alors, je précise d'emblée que ce que montre le film est tout à fait exact. Hein, c'est vraiment là une reconstitution parfaite. Et alors, ce bordereau, c'est donc, en fait, il faut le prend du point de vue administratif. Un bordereau accompagne l'envoi de documents. Donc en fait, le commandant Esterhazy, et c'est le colonel Picard qui le montrera ensuite, on en reparlera, Esterhazy a envoyé effectivement des documents peu importants.
Oui, mais ça, hein. Ne parlons pas d'Esterhazy.
Oui.
Il y a un bordereau, oui. Il n'est pas signé, et tout de suite, on soupçonne Alfred Dreyfus. Pourquoi?
Alors, on soupçonne Alfred Dreyfus, et le film le montre bien, parce qu'il y a d'abord une sorte de peur immédiate au sein de l'état-major du ministère de la Guerre, la certitude qu'il y a une énorme situation de trahison. C'est vrai que la France est, je veux dire, en état de guerre d'une certaine manière avec l'Allemagne, et très vite il faut trouver un coupable, et l'analyse que les agents des services d'enseignement réalisent est totalement erronée. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ont affaire à des documents très importants, notamment le terme de note. En fait, le terme de note ne désigne pas des notes administratives simplement. l'auteur, dont Esterhazy, qui fabrique des petites notes, des petits pense-bêtes. Et en fait, l'analyse donc visant à expliquer que c'est certainement un officier de l'état-major est erronée, mais qui amène donc l'intérêt, le soupçon sur Dreyfus. Et là, je crois qu'il y a un point essentiel, c'est que le colonel Fabre, le commandant d'Orgeville, qui en fait d'emblée désigne Dreyfus, eh bien le désigne parce que ils l'ont mal noté. Bon, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mal noté? Parce qu'ils ne voulaient pas de juifs à l'état-major. Et là, c'est important, on a effectivement là l'intention de la conspiration.
Alors Jean-Denis Bredin, effectivement, l'armée, l'opinion publique aussi en général, on y reviendra, est très travaillée par l'antisémitisme, ce qui aboutit à penser qu'un juif c'est forcément un traître. C'était non seulement il était juif mais alsacien, donc on soupçonne Dreyfus à cause de cela, tout de suite d'ailleurs on lui fait faire quelque chose de très humiliant pour être sûr que c'est lui, si on pouvait l'être. On lui impose une dictée. Il y a le colonel, je crois, du Paty de Clam, qui lui fait faire une dictée pour comparer son écriture à celle du bordereau.
Oui, c'est-à-dire qu'on veut le prendre à un piège. Mais le vrai problème aussi est que l'armée à l'époque vit dans la maladie de l'espionnite. Si la France a perdu la guerre, c'est parce qu'elle a été trahie, oui. C'est parce qu'il y a eu des espions, c'est parce qu'il y a eu des traîtres, et c'est parce que le service de renseignement français n'a pas fonctionné comme il faut. Et partout, l'armée cherche des traîtres, cherche des espions, y compris à l'ambassade d'Allemagne. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsque les documents sont découverts, on va tout de suite rechercher qui l'a fait, parce que l'espionnite oblige à ça. Et on sait aussi que le ministre de la guerre, le général Mercier, n'est-ce pas Vincent, je reviens, le général Mercier, à l'époque, était souvent accusé par l'extrême droite française, notamment par le journal de Drumont, La Libre Parole, de ne pas en faire assez et de tolérer la présence des juifs dans l'armée. Par conséquent, on savait que le général Mercier approuverait cette recherche qui consistait à trouver un coupable qui fût juif. Et comme l'écriture de Dreyfus ressemblait, on y reviendra, un peu à toutes les écritures de l'époque, il faut le dire, car tout le monde apprenait à écrire de même manière. Et d'ailleurs maintenant, moi je me souviens quand j'ai travaillé là-dessus, vous avez dû avoir la même chose, toutes les écritures se ressemblaient sans exception, maintenant elles sont toutes différentes, mais immédiatement tout le monde va dire, ah ben oui, c'est l'écriture de ce juif, de cet officier juif qu'on n'aimait pas, qui avait très bonnes notes, qui était très brillant, qui était trop brillant même, parce que quoi, alsacien, on pourra peut-être y revenir.
Et en tout cas, qui est arrêté le 15 octobre 1894, envoyé à la prison du Cherche-Midi. Mais alors, faute de preuves formelles, eh bien, le général Mercier, dont vous avez parlé, Jean-Denis Bredin, ministre de la guerre, et l'état-major reste discret. Et ce n'est que le 31 octobre que l'affaire est révélée par la presse, 3 semaines après l'arrestation de Dreyfus.
Vous lisez les journaux, n'est-ce pas, messieurs? Ils s'en prennent directement à nous. Les chefs de l'armée, bien qu'il m'en coûte de lire ces ignominies, écoutez cependant. Où le général Mercier a fait arrêter sans preuve le capitaine Dreyfus, et dans ce cas sa légèreté est un crime, où il s'est laissé voler les pièces établissant la trahison, et dans ce cas son imprévoyance est une bêtise. Dans les deux cas, le général Mercier est indigne du poste qu'il occupe. Alors colonel, si vous avez des dossiers, faites-en bon usage.
Puisque Dreyfus est coupable, de toute façon, nous en avons l'intime conviction. Il répond tout à fait au portrait idéal du traître. Puisqu'il est coupable, on peut décider de trouver des preuves.
Alors mettez-vous au travail, commandant. Il nous faut des preuves pour le conseil de guerre.
Et des preuves, puisqu'on n'en a pas, eh bien, tout simplement, on va en fabriquer. Alors, je voudrais qu'on évoque le rôle de la presse souvent, parce qu'on pense forcément à l'article de Zola, dont nous reparlerons, dans l'Aurore qui défend Dreyfus. On se dit, la presse a été formidable. Dans ce cas particulier, au moment où commence l'affaire en 1894, la presse a joué un rôle détestable, Jean-Denis Bredin, parce qu'elle a littéralement poussé l'état-major à accélérer les choses, quitte à fabriquer des preuves. Et la presse antisémite, notamment.
Mais il est vrai qu'en quelques années, non pas est née, parce qu'elle était née déjà, mais s'est développée une presse très violemment antisémite. D'une part, après la publication du livre de Drumont en 1884, après la publication du livre de Drumont, son journal, qui va être un jour...
La France juive.
La France juive terrible, la libre parole, et puis une presse catholique antisémite, puisque le journal La Croix, qui changera ô combien de manière, le journal La Croix à l'époque s'affirme le journal le plus anti-juif de France, c'est-à-dire que la France a été trahie par les juifs, elle est non seulement trahie, elle a été trahie probablement par des juifs, les juifs sont des sites, ça c'est une vieille tradition, mais aussi les juifs apportent le capitalisme, et c'est l'époque où se répand le capitalisme, on change de système social, de système politique, puisque la République est installée, tout change en France pendant ces années-là. Alors, et par conséquent, le coupable est en face, alors, c'est le juif.
Comme Mercier, comme le ministre de la guerre est accusé de ne rien faire, évidemment, il va précipiter les choses, et on aboutit très vite à un conseil de guerre qui s'ouvre le 19 décembre 1894, qui s'ouvre à huis clos, et alors là, qui d'emblée utilise des méthodes qui peuvent être surprendre, notamment, on va communiquer à ce conseil de guerre, et évidemment, pour le secret défense, qui ne cherche pas évidemment à cacher à cette occasion-là des preuves qui pourraient être compromettantes, mais à cacher l'absence de preuves, eh bien c'est sur un document secret, je crois, Vincent Duclerc, que l'on va accuser Dreyfus.
Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que bon, le huis clos est légal, hein, mais c'est vrai qu'il empêche d'une certaine manière aussi la défense de Dreyfus. On observe aussi pendant les débats une tentative de s'attaquer aux témoins de la défense, hein, mais globalement, et ça notamment le préfet de police le dit clairement, Dreyfus a toutes les chances d'être acquitté. Et en fait, pour conjurer donc effectivement cet acquittement qui serait une catastrophe pour le ministre de la guerre, le ministre de la guerre ordonne donc à un officier d'apporter au juge militaire en salle des délibérés, en chambre du conseil, au moment où ils vont rendre leur verdict, un dossier secret composé de 4 pièces qui sont soit des faux, soit des documents faussement attribués à Dreyfus, et surtout il y a un commentaire secret qui est fait, un commentaire de l'ensemble, et ça c'est rédigé sur l'ordre du ministre de la guerre, donc là on voit bien effectivement les conjurés, et c'est sur la base de ces secrets que Dreyfus est condamné à l'unanimité. Mais là, il faut voir que le procès est totalement illégal. On a parlé de crime judiciaire.
Alors, condamné le 22 décembre à être envoyé au bagne jusqu'à la fin de sa vie, à perpétuité. Et ce qui est étonnant, c'est que personne, à ce moment-là, ne soupçonne Dreyfus d'être innocent. Même ceux qui le défendront plus tard, je cite Clémenceau dans le journal La Justice, qui dit « Il n'y a donc pas de parents, pas de femmes, pas d'enfants, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité ou d'animalité, rien qu'une âme immonde, un cœur abject », dit Clémenceau en parlant de Dreyfus. Jaurès, qui le défendra plus tard, dit « Le capitaine Dreyfus, convaincu de trahison par un jugement unanime, n'a pas été condamné à mort. » Et Jaurès s'en offusque. Alors, personne ne défend ce capitaine Dreyfus lorsque, quelques jours après sa condamnation et juste avant de partir en Guyane, eh bien, il doit subir la pire des épreuves devant 4000 soldats rassemblés dans la grande cour de l'école militaire pour assister à la dégradation du capitaine Dreyfus de 5 janvier 1895.
Par un jugement du 22 décembre 1894, le Conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Par ces motifs, le Conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire.
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
Je jure que je suis innocent !
Un officier d'état-major est accusé à tort d'être un espion de l'Allemagne. On le condamne au bagne. De Vaugirard ou de Passy, en chœur on applaudit la dégradation militaire à l'école militaire. On lui arrache ses galons, son sabre, ses boutons, il répète son innocence. Il crie de la France.
Que c'est un juif. Que c'est un juif.
Le seul juif de l'état-major. Que vous faut-il? encore. Ah oui, c'est bien lui le coupable. Ah, qu'il s'en aille au diable.
C'était Catherine Sauvage, Dreyfus, une chanson très belle de Francis Lemarque. La dégradation, Vincent Duclerc, c'est peut-être la scène la plus connue de cette affaire Dreyfus. Elle était reproduite dans tous les journaux de l'époque. Épouvantable pour Dreyfus.
Épouvantable, mais aussi c'est là où il a révélé, en fait, je veux dire qu'il était héroïque, parce que en face du front des troupes, devant cette foule de Parisiens, c'était bien 20 000 personnes qui crient à mort les Juifs.
Et même des tribunes. Et on avait construit des tribunes pour que tous les journalistes assistent à cette scène effrayante.
C'était vraiment une scène de sacrifice qui renvoyait, je veux dire, à presque au Moyen-Âge. Eh bien, Dreyfus crie « Soldat, on dégrade un innocent ». Et là, il est effectivement héroïque. Et je crois qu'il faut insister sur cette dimension-là.
Et le début d'un calvaire qui va durer 4 ans, puisqu'il part immédiatement à l'île du Diable, dans des conditions où il va être interné.
À l'île du Diable, que l'on rétablit comme lieu de déportation
au large de la Guyane,
par une loi particulière, car ce n'était pas plus un lieu de déportation. Mais pour que Dreyfus, qui ne pouvait pas être condamné à mort à cause d'une loi de 48, si j'ai bonne mémoire, que Dreyfus fût puni et meurt probablement là-bas d'ailleurs, on a rétabli l'île du Diable comme lieu de déportation.
Alors, déportation aggravée encore par sa solitude, non seulement physiquement seul, loin de toute sa famille, mais en plus, personne ne le soutient pendant un an et demi. D'ailleurs, l'affaire, on n'en parle plus, une fois qu'elle est réglée, croit-on, par ce jugement de 1894. Mais il n'y a personne pour le soutenir. Sauf sa famille. Et son frère Mathieu, qui va jouer un rôle essentiel.
Oui, sa famille se mobilisera vraiment avec beaucoup de, non seulement d'affection, mais de profond courage et de détermination absolue, car elle savait qu'il ne pouvait pas avoir trahi. C'était complètement extérieur à sa mentalité, ça n'était pas possible, et sa famille va mobiliser peu à peu sa femme, Mathieu le frère merveilleux, ils vont mobiliser un certain nombre de gens, comme Bernard Lazare d'ailleurs, et
Bernard Lazare le premier intellectuel.
Pour se battre, pour rechercher, pour trouver, tout était très difficile, parce que effectivement il y avait une espèce de conviction unanime qui était réunie contre lui, et là le courage de la famille a été extraordinaire.
Le courage de Bernard Lazare que vous citiez, vous avez même écrit un livre sur lui, Jean-Yves Bredin, parce qu'il est le premier à dire qu'il faut réhabiliter Dreyfus, qu'il est sûrement innocent, alors que il n'y a pas de preuve de sa culpabilité, mais on ne peut pas prouver non plus qu'il est innocent à l'époque. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui va jouer un rôle essentiel. C'est le nouveau patron des services secrets français, le colonel Picard, qui prend ses fonctions en 1896 et qui, un an et demi après la condamnation de Dreyfus, découvre qu'il y a un autre coupable, le vrai coupable. Comment a-t-il fait, s'il vous plaît, Vincent Duclerc?
En fait, Picard a fait ce que ses prédécesseurs auraient dû faire, c'est-à-dire une véritable enquête. Il avait été chargé, en fait, de continuer à enquêter sur les affaires de trahison, notamment parce que le gouvernement s'inquiétait, malgré tout, de la ténacité de la famille. Il voulait accumuler de nouvelles preuves et comptait sur Picard pour le faire. Et en fait, Picard, va intercepter d'autres documents en provenance de l'ambassade d'Allemagne, venant de la même voie, que le bordereau, et notamment ce qu'on appelle un petit bleu, c'est-à-dire une lettre télégramme déchirée, adressée au commandant Esterhazy. Et montrant que, effectivement, l'attaché militaire allemand Esterhazy était en relation donc d'espionnage.
Esterhazy, donc un capitaine.
Un commandant, un fantassin. Et alors, en fait, ce que fait Picard, ça c'est fondamental. Bien sûr, il commence à expertiser l'écriture, à essayer de rechercher, voir si Esterhazy est bien le coupable. Mais surtout, il fait une enquête sur Esterhazy. Il découvre des mobiles. Le problème avec Dreyfus, c'est qu'il n'y a pas de mobile à sa trahison. Avec l'enquête de Picard, eh bien, il établit à la fois la preuve de la culpabilité donc d'Esterhazy, et puis la preuve de l'innocence de Dreyfus.
Et que Esterhazy est le véritable auteur du fameux bordereau.
Oh non. Dreyfus innocent.
Alors on se serait trompé. Il y a deux affaires, colonel. L'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy. Il faut les séparer absolument.
Mais comment? C'est impossible. Le bordereau est de la main d'Esterhazy.
Oubliez le bordereau, colonel. Instruisez l'affaire Esterhazy. Le dossier Dreyfus reste clos.
Mais c'est impossible, mon général. Esterhazy est un traître, un espion.
Ce n'est pas la preuve. Pour l'instant, c'est un officier de l'armée française.
Mais un innocent est condamné à sa place.
Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable?
Mais puisqu'il est innocent,
L'innocence. Si vous ne dites rien, personne ne le saura.
Je ne garderai pas ce secret pour moi.
Vous emporterez ce secret. Tous les secrets. Ou bien vous serez brisé, exilé, comme Dreyfus.
Et c'était une conversation entre le colonel Picard qui découvre la culpabilité du vrai responsable du bordereau, qui était Esterhazy, et le sous-chef d'état-major de l'armée française, le général Gonse, qui refuse que on révèle cette découverte. Ça, c'est capital, Jean-Denis Bredin, parce que ça va laisser encore traîner l'affaire, puisque seul Picard est au courant.
Oui, mais parce que la proclamation de la vérité, pour des gens comme Gonse et comme beaucoup d'autres, la proclamation de la vérité eut prouvé la faute de l'armée, le crime de l'armée, et ce n'était pas possible que la France acceptât que l'armée eût commis un crime. Par conséquent, il valait beaucoup mieux que Dreyfus demeure à l'île du diable, plutôt que de voir l'armée française accusée d'avoir fabriqué des faux ou encore d'avoir voulu la condamnation d'un coupable. Et par conséquent, d'un innocent. Et par conséquent, il est certain que tous ils vont se réunir. On va d'abord essayer de se débarrasser de Picard en l'éloignant le plus possible.
On l'envoie en Tunisie.
Ça, on pourra y revenir. Et Picard se sentira tellement menacé, peut-être même menacé de mort, que ce militaire pourtant très droit, très militaire, va confier à un de ses amis avocats qui s'appelait Le Blois le secret qu'il avait, afin que, s'il venait à mourir, quelqu'un connût ce secret, et Le Blois transportera ce secret, c'est-à-dire en parlera à Scheurer Kestner, qui sera l'un des grands artisans alors de la révision, un Alsacien, député, sénateur d'Alsace, sénateur inamovible. Voilà.
Et puis alors il y a aussi la mobilisation d'un nombre de plus en plus grand d'écrivains qui vont soutenir Dreyfus. De plus en plus nombreux, mais ça viendra un peu plus tard effectivement. Oui. Et puis on s'aperçoit aussi que ce personnage d'Esterhazy est beaucoup plus douteux que l'armée ne veut le faire croire, parce que l'armée le défend, dit c'est un officier exemplaire. On s'aperçoit que c'est un homme qui n'a aucun intérêt pour la France, qui déteste la France. Il y a une lettre qui est révélé par sa maîtresse, en tout cas une maîtresse éconduite, qui montre qu'il était prêt, qu'il détestait les Français, personnage détestable, et qui va d'ailleurs demander lui-même, parce qu'il se sent soupçonné, de passer devant un conseil de guerre, et il va être acquitté. Passant Duclerc.
Oui, il demande, parce que aussi les soupçons quand même commencent à converger. Là, on a un moment où, malgré tout, un certain nombre de journaux, Clémenceau qui vient de prendre la direction de l'Aurore, Le Siècle, donc accueille notamment la lettre de dénonciation de Mathieu Dreyfus qui dit c'est Esterhazy. Donc, en fait, Esterhazy demande son passage en conseil de guerre parce qu'il sait d'une certaine manière qu'il sera protégé et acquitté.
Et il sera en effet acquitté le 10 janvier 1898. Donc, si il n'est pas coupable, c'est que Dreyfus l'est vraiment. Ça scandalise évidemment beaucoup de gens, dont Émile Zola, qui va, le surlendemain, 3 jours plus tard, qui va publier son fameux J'accuse. Nous en parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette émission sur l'affaire Dreyfus. En attendant, et pour savoir plus, je recommande les livres de mes deux invités, Jean-Denis Bredin, dont les éditions Fayard viennent de rééditer l'affaire, et Bernard Lazare, sous le titre Dreyfus, un innocent, publié dans la collection Les Indispensables de l'Histoire. Quant à Vincent Duclerc, eh bien, il est l'auteur de 3 ouvrages sur le sujet, une biographie passionnante, très complète, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, aux éditions Fayard, et puis Dreyfus est innocent, un très beau livre illustré de photos chez Larousse, enfin l'affaire Dreyfus, aux éditions La Découverte, dans les collections Repères. À lire aussi de très nombreux livres édités à l'occasion de ce 100e anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus, et dont vous pourrez retrouver les références sur notre site internet. D'autres manifestations nombreuses marquent aussi ce centenaire, l'exposition Alfred Dreyfus, le combat pour la justice, qui se tient jusqu'au 1er octobre au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris, et un colloque de la justice dans l'affaire Dreyfus, où vous interviendrez Vincent Duclerc et Jean-Denis Bredin, et qui se tiendra le lundi 19 juin à la Cour de cassation de Paris. Toutes ces références et beaucoup d'autres encore sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Comilac. Demain donc, et avec comme aujourd'hui Jean-Denis Bredin et Vincent Duclerc, deuxième partie de notre émission sur l'affaire Dreyfus, la réhabilitation, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, et même avec une minute de retard. Pardon Eric Oswald.
Que je vous ai demandé, Patrice. Merci beaucoup, à demain Patrice.
À demain.
Là...
suis chanteur à mode hispanisant, mais je chante aussi le pas.
Amis de la musique.
Musique
express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.